Interview de Pierre-Marie Adam, nouveau grand maître de la Grande Loge de France, à l'issue de la conférence publique qu'il a tenue le 28 août 2018 sur le thème « Devoir et droit ». Pierre-Marie Adam, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le nouveau grand maître de la Grande Loge de France, fraîchement élu, puisque ça s'est passé en juin dernier, et nous sommes au sortir de votre première conférence publique, dont le thème était « Devoir et droit ». Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et nous expliquer comment vous est venue cette idée d'être grand maître ?
Alors me présenter en quelques mots, je m'appelle donc Pierre-Marie Adam, j'ai 72 ans, je suis donc retraité de la fonction publique, en particulier de la police nationale, mais j'ai aussi, dans une deuxième partie de vie professionnelle, été directeur de cabinet en Lorraine. Du point de vue des autres activités, j'ai aussi accompli quelques missions pour l'administration pénitentiaire et pour l'éducation ou en tout cas la formation des personnels territoriaux. Voilà pour la partie professionnelle. Je suis marié et j'ai des enfants, des petits-enfants. Voilà pour ce qui est de mon cursus profane. Plan maçonnique, j'ai 34 ans de franc-maçonnerie maintenant et j'ai donc accompli le parcours d'un franc-maçon ordinaire qui s'est trouvé à certains moments de son parcours poussé ou en tout cas en situation pour représenter sa loge, puis représenter le congrès et ensuite appartenir à l'exécutif de la Grande Loge. J'ai accompli trois mandats à la fois de grand secrétaire, de grand orateur, et puis j'étais premier grand maître adjoint. Alors, est-ce que c'est une vocation? Non. Est-ce que c'est un concours de circonstances? Oui, et en même temps, c'est aussi le fait d'avoir saisi peut-être le moment où l'opportunité se présentait. Et donc, je suis devenu grand maître après avoir été élu, évidemment, au convent, face à deux concurrents qui sont de qualité, mais les députés ont pensé que mon expérience me rendait plus apte à accomplir cette fonction.
C'était donc ce soir votre première conférence publique en tant que grand maître. Qu'est-ce que ça fait cette première conférence publique en tant que grand maître ?
Eh bien, on a sur les épaules le poids de la parole au nom de l'obédience. Et ça change tout parce que quel que soit le poste qu'on occupe, y compris au sein de l'obédience, on est toujours le second ou l'adjoint ou en tout cas l'assistant du grand maître. On n'est pas celui qui va porter la parole de l'obédience. Et il y a donc cette espèce de responsabilité, le poids en tout cas de ce qu'on va dire, de ce qui va être entendu, de ce qu'on va comprendre et de ce qu'on va pouvoir faire passer comme message. Et c'est assez stressant, c'est trop dire, mais en tout cas, on a le sens de la responsabilité des paroles et des discours que l'on va porter. Alors la première fois, devant une grande assistance, dans le temple emblématique de la Grande Loge de France, ce n'est pas non plus anodin.
Alors le thème était « devoir et droit », et non pas « droit et devoir ». Pourquoi les avoir mis dans cet ordre-là ? Et puis ensuite, quel est le devoir d'un grand maître lorsqu'il est élu ?
Pourquoi devoir avant droit ? Parce que, comme je l'ai dit, les droits ne sont en quelque sorte que la contrepartie des devoirs que l'on doit accomplir. Nous devenons francs-maçons en prêtant des serments. Ces serments nous obligent, puisque nous avons choisi de le devenir, nous obligent à respecter un certain nombre de devoirs, d'obligations, de principes, de règles. Et donc, c'est seulement lorsque ces règles, ces devoirs, ces principes sont respectés que on peut espérer avoir droit, mais droit à quoi ? Droit à quoi ? Droit à simplement à devenir meilleur, à peut-être progresser, à profiter du contact avec les autres, à mieux répondre à la place qu'on doit occuper, à mieux accomplir ce pourquoi on est dans la vie. Et voilà pourquoi, pour moi, le devoir est la première des obligations, le droit n'étant que la récompense du devoir accompli. Le devoir du grand maître, c'est d'abord d'assurer la pérennité de l'obédience. C'est de faire en sorte que les frères puissent travailler et progresser. C'est de faire en sorte que l'harmonie règne parmi tous les adhérents, parmi tous les frères. Et puis c'est aussi de fixer le cap Et pour ce qui me concerne, j'ai fixé un cap en trois priorités. La première, c'était la gouvernance, parce que je crois que nous devons un peu nous dépoussiérer dans notre fonctionnement. Mais je m'appuierai sur les conseillers fédéraux qui ont eux aussi leur mot à dire dans cette affaire. Le deuxième, c'était d'une certaine manière l'ouverture. À savoir que nous ne devons pas rester entre nous à simplement faire tourner nos méninges, mais faire en sorte que nous nous tournions vers l'extérieur. Il y a suffisamment d'interrogations de notre temps aujourd'hui pour que nous ne restions pas en dehors du mouvement, en dehors de l'évolution, en dehors de ceux qui vivent aujourd'hui et qui ont des problèmes et à qui nous devons prêter attention. Et le troisième, c'est bien entendu l'initiatique, c'est ce pourquoi nous sommes ici, c'est travailler en loge, comprendre le rite, pratiquer le rituel et le tout de la meilleure façon possible. Voilà ce qu'étaient mes trois priorités, voilà ce que sont pour moi les devoirs d'un grand maître.
Parmi vos trois priorités, il y en a une qui concerne l'ouverture, donc la communication. J'ai vu qu'il y avait un grand officier chargé de la communication. Alors, on a coutume, et vous l'avez rappelé ce soir, on a coutume de dire qu'il y a une obédience qui est très sociétale, qui fait beaucoup parler d'elle, nos frères de la rue Cadet. Quelle est la différence à la Grande Loge de France lorsque vous allez ouvrir la communication et ouvrir l'obédience donc...
Entre nos deux obédiences, la différence n'est pas sur le fond, sur l'objectif, à la limite, elle est sur la méthode, les moyens utilisés. Nous ne sommes pas contre le progrès social, nous ne sommes pas contre le progrès des individus. Nous sommes simplement persuadés que ce n'est pas par l'action sociale ou par le discours, mais par la capillarité, je dirais, par l'exemple que nous donnons, par les progrès que nous essayons d'accomplir, qui font que les autres profiteront de ça. Donc cette différence, elle est là. Sur ce que j'appelle l'ouverture pour moi, bien sûr la communication, nous devons mieux nous faire connaître. Nous devons montrer que nous ne sommes pas, on a coutume de dire, ni une secte, ni des adeptes du secret absolu, ni de l'ésotérisme confus, ni de choses comme cela. Et donc nous devons ouvrir notre discours pour dire la vérité sur ce que nous sommes, ce que nous cherchons, ce que sont nos priorités, ce que sont nos principes. Et cette ouverture-là, pour moi, c'est une ouverture en termes de communication. L'autre ouverture, c'est l'ouverture à l'égard des autres, et là c'est à chacun de tourner ses regards vers ceux qui veulent pouvoir nous regarder, et nous ceux que nous pouvons avoir envie d'aider ou de secourir.
Pierre-Mireille Adam, je vous remercie, la soirée s'est formidablement bien passée, puisque les deux temples étaient pleins soir.
Et on m'a dit que le son n'était pas terrible.
Le son n'était pas terrible, mais on vous a remarquablement entendu quand même,
bon,
et merci. Bon courage pour la suite.
Merci à vous. Et merci à vos auditeurs.